Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu combien il est important de connaître le nom de Dieu afin de savoir à qui nous adressons nos prières. Celui que nous appelons le Père est le Très-Haut, comme le confirme l'apôtre Luc dans son évangile, et celui qui est devenu notre Sauveur est l'Éternel de l'Ancien Testament. De nombreux passages bibliques le prouvent, et j'en ai fait mention déjà au cours des missions précédentes. Comment le Christ et le Père sont-ils appelés dans le Nouveau Testament? La question est essentielle et déterminante pour chacun de vous, afin que vous puissiez les distinguer. L'apôtre Paul fut envoyé chez les païens, les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Son ministère s'est étendu au monde grec, où l'hébreu et l'araméen n'étaient pas couramment parlés. Comment Paul expliqua-t-il à ces Grecs convertis, ou sur le point de l'être, qui sont le Père et le Fils? Quel nom a-t-il donné aux deux membres de la famille divine? Il a eu tout simplement recours au mot grec pour « Dieu, Seigneur, la parole, Christ, Jésus ». Il traduisit le nom hébreu « El », signifiant « Dieu », par le nom grec « Theos ». Et pour le Seigneur, l'Éternel, il utilisa le mot grec « Kyrios ». Ces deux mots grecs, « Kyrios » et « Theos », apparaissent des centaines de fois dans les évangiles, et c'est par l'intermédiaire de ces noms grecs qu'ils sont repris dans les diverses traductions existantes. Il n'existe aucun manuscrit du Nouveau Testament où les noms des membres de la famille divine soient écrits en hébreu. Il n'existe donc aucune preuve que les apôtres aient utilisé des noms hébreux lorsqu'ils parlaient de la divinité aux Grecs. La plupart des théologiens admettent que l'évangile de Matthieu ainsi que l'épître aux Hébreux ont été rédigés en hébreu pour être plus tard traduits en grec. Certains prétendent même qu'aucun livre du Nouveau Testament n'a été rédigé en grec. Ils affirment que Paul s'est exprimé en araméen aux convertis, aussi bien en Grèce qu'en Asie mineure ou à Rome. Ce n'est vraisemblablement pas exact, car à l'époque, le grec était la langue la plus répandue. L'apôtre Marc nous en donne un indice lorsqu'il écrit « À la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans ce passage, les paroles de Jésus sont citées en araméen telles qu'il les a prononcées. Mais afin que cette citation s'intègre bien dans son évangile, Marc les traduit aussitôt en grec dans une langue différente de celle que le Christ a utilisée. Certains prétendent que le nom « Messie » prévalait contre celui de Christ à l'époque. Or, cela ne doit pas être exact puisque les disciples furent appelés chrétiens. Luc relate ce fait important dans le livre des Actes, où il dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens ». Les disciples n'auraient pas été appelés chrétiens s'ils n'étaient pas connus pour suivre le Christ. Ce nom qu'on leur attribua prouve bien, sans l'ombre d'un doute, que le nom Christ était utilisé à l'époque. L'apôtre Pierre écrit « Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux. » Pierre n'utilise pas un nom hébreu, mais il emploie ici le nom de Christ. Un peu plus loin, il ajoute « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Si le nom de chrétien est porté par certains, c'est parce qu'ils sont disciples du Christ. Si on n'avait pas utilisé le nom Christ, mais plutôt celui de Messie, les disciples auraient été appelés des messiens et non pas des chrétiens. Lisons ce que Jésus déclara à ses disciples. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Remarquez que dans ce passage, Jésus déclare qu'il est le Christ et que plusieurs utiliseront ce nom pour se présenter et séduire les gens. Lors d'une visite au temple, Pierre et Jean virent un boiteux de naissance. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le lendemain, les chefs du peuple leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce passage a été écrit en grec sous l'inspiration divine. Il est bien question du nom de Jésus-Christ. L'étymologie du nom français « Jésus » nous mène au nom grec « Jésus » qui est tout simplement la traduction du nom hébreu « Joshua » signifiant « L'Éternel est le Sauveur ». Jésus est bien le nom de notre Sauveur. C'est pour cela que nous retrouvons le nom « Jésus » tant et tant de fois dans le Nouveau Testament. Si nous renions le Christ, si nous ne reconnaissons pas son nom pour ce qu'il représente, pour ce qu'il signifie, alors lui aussi reniera notre nom devant son Père lors du jugement, comme il l'affirma à ses disciples. Il a dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Soyez donc vigilants et prenez garde à renier le nom de Jésus, à rejeter la signification de son nom, car à son tour, il reniera le vôtre lors du jugement. Je voudrais vous rappeler ce que le Christ déclara à son Père peu avant son arrestation. « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Peu de temps avant, Jésus avait dit, « Tout ce que le Père a est à moi. » Il avait déjà déclaré, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Ces passages des Écritures nous permettent de conclure que tout ce qui appartient au Père est la propriété du Christ, et tout ce qui appartient au Fils est la propriété du Père. Ce mot « tout » comprend également les titres et les noms. Ceux qui appartiennent à l'un appartiennent à l'autre également. Laissez-moi vous montrer un exemple. Paul écrit à Timothée, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Dans ce passage, il est bien question de Dieu et de Jésus-Christ. Le titre de « Roi des rois » est ici donné à Dieu, à celui qui a rendu la vie au Christ par la résurrection. Il est considéré ici comme seul souverain, comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais ce titre est aussi donné au Christ. C'est ce que Jean confirme en décrivant l'époque de son retour. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et seigneur des seigneurs ». Marie apprit qu'elle allait être en état de grossesse et que l'enfant qu'elle mettrait au monde serait le Fils du Très-Haut. « Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Le Très-Haut est donc le nom du Père. L'apôtre Paul écrit, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Ici, Paul nous fait comprendre que le Père a un nom de famille. Jésus-Christ est le Fils du Père. Tout fils porte habituellement le nom de famille de son père. Jésus a déclaré « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Quel était le nom de famille de Jésus? Il répond lui-même à cette question « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes » et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jésus a bien affirmé qu'il était le Fils de Dieu. Le véritable chrétien peut également être appelé enfant de Dieu. Jean a écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » La famille suprême, la famille divine qui règne sur tout, est la famille de Dieu. C'est la famille au sein de laquelle tout homme qui acceptera de se soumettre à Dieu sera accueilli. Avant son arrestation, Jésus pria pour que son Église soit gardée au nom du Père. Il a dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Quel est donc le nom de l'Église que le Christ fonda? Le nom de cette Église légitime est mentionné à 12 reprises dans la Bible. Il s'agit de l'Église de Dieu, une Église gardée au nom de Dieu, demeurée au nom de Dieu comme le Christ en avait manifesté le désir. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Marc écrit « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » À travers son message, annoncé au nom du Seigneur ou en son autorité, Jésus nous fait comprendre que le nom « Dieu », traduit de l'hébreu « Elohim », est un nom de famille, c'est le nom de la famille divine. Tout ceci est très important, car en s'adressant à l'Église de l'époque de Philadelphie, le Christ lui fait une promesse. « Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Nous devons faire en sorte de ne pas renier ce nom comme certains l'ont fait. Dieu est le nom de famille du Père et Jésus est le nom de son Fils. Tous deux sont Dieu, membres de cette glorieuse famille, et tous deux ont bien d'autres noms. Nous pouvons être certains que le Christ a un nom que nous ne connaissons pas. C'est ce que l'apôtre Jean écrit. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Les noms et les titres de Dieu nous aident à comprendre son caractère et sont seulement des symboles de ce qu'il est. Nous devons respecter ces noms, ne pas les blasphémer ni les utiliser en vain. Le Christ nous a révélé la voie du caractère de Dieu et ce même caractère en nous nous conduira à détenir la vie éternelle comme Dieu et à porter ces noms qui résument son caractère.